Très rapidement, mais en sachant que je rappelle que vous connaissez déjà, c'est donc l'histoire aujourd'hui, telle qu'elle est présentée, en tout cas depuis 1945, les travaux du chanoine Gros. C'est l'histoire d'une femme qui serait originaire de Valoire, qui s'appelle Tigre ou Tec, les deux patronymes sont utilisés. Elle a une sœur Piménie, et donc elle reçoit la visite de moines qui viennent d'Orient, qui se dirigent en Irlande, et qui leur racontent les miracles accomplis par les reliques de Saint Jean-Baptiste en Orient. Donc les deux, Tec ou Tigre, je ne sais comment la nommer pour l'instant, se dirigent donc vers la Palestine, enfin vers l'Orient, à la recherche de... et ramènent donc des reliques de Saint Jean-Baptiste. Ce sont aujourd'hui, vous le savez, c'est les trois doigts de Saint Jean-Baptiste que nous avons dans l'église de Montréal, qui sont présentés fréquemment. Et cette femme revient donc en Maurienne et donc bâtit ou fait bâtir une église qui va abriter donc ces fameuses reliques. Et ensuite, elle va terminer sa vie dans une grotte. Voilà donc l'histoire très résumée de cette telle que le chanoine Gros l'a présentée au milieu du XXe siècle. Et c'est un peu là-dessus que je suis parti quand j'ai commencé mes travaux. Alors, je vous présente quelques images. Voilà, ça a l'air de marcher. Donc, le voyage, elle est partie donc d'abord vers Rome. C'est comme ça, en particulier, que le chanoine Truchet raconte cette histoire, donc un peu avant le chanoine Gros. Elle s'est arrêtée à Rome sur le tombeau de Saint-Pierre, et elle a rencontré là des pèlerins qui étaient de passage. Elle s'est embarquée avec ces pèlerins à destination d'Alexandrie, où serait situé donc le tombeau de Saint-Jean-Baptiste avec des reliques. Au bout de 2 années, donc, elle revient en Maurienne, et donc je vous présente ici un tableau qui est aujourd'hui dans la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne, un tableau de Casimir Vicario de 1832, où il représente en quelque sorte tous les éléments de la légende. Vous avez ici donc Tec avec les reliques. Elle est entourée de veuves, et elle remet ses reliques donc à l'évêque, qui serait donc l'évêque Felmaz, entouré des officiers, les leudes du roi Gontran. Alors le roi Gontran, c'est à l'époque, pour vous le situer, c'est le petit-fils de Clovis. Clovis est mort en 511, et le roi Gontran, lui, a commencé à régner en 561. Donc vous voyez qu'on remonte très loin dans le temps, on remonte au 6e siècle, donc 15 siècles. Et depuis 15 siècles, cette tradition se poursuit donc dans notre région. Les reliques, vous les connaissez, donc c'est les trois doigts de Saint Jean-Baptiste aujourd'hui, avec le pouce, le médius et l'annulaire. Donc la grotte de Saint-Tec, je vous la présente rapidement, vous la connaissez tous, avec cette grande croix blanche qui était installée au XIXe siècle. C'est donc le sénateur Anselme qui a financé l'opération. Voilà l'entrée de la grotte que vous connaissez sans doute. Et je commence cette première partie en insistant sur le mot légende. Pierre l'a souligné tout à l'heure, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, et le mot legenda n'est pas synonyme de ce que nous appelons nous aujourd'hui légende. Ce n'est pas une fiction ou un récit imaginaire. Le mot legenda, il faut le prendre au sens étymologique du mot, c'est-à-dire du verbe lire en latin, le gérondif du verbe lire, qui signifie qui doit être lu. Et effectivement, c'est un texte, un récit qu'on va lire pendant les offices, qu'on va se diffuser par le bouche à oreille, et c'est en ce sens-là qu'il faut le comprendre, et c'est donc un récit installé dans la tradition. Il y a très peu de différence entre ce style de récit et l'histoire telle qu'elle est comprise par les hommes de ce temps. Alors, je fais, dans cette introduction, un rapide, pour mieux vous situer dans ce 6e siècle qui est si loin de nous, et pour essayer de penser un petit peu comme les hommes de ce temps, donc de resituer un peu leur contexte, donc quelques repères chronologiques. Donc, je vais remonter assez loin, c'est-à-dire au 4e siècle, sur l'année 381. Pourquoi cette année? Vous me direz, c'est simplement qu'en 381, l'empereur Gratien, l'empereur romain, vient dans une ville qui s'appelle Cularo. Il va la rebaptiser, il va lui donner son nom, elle va s'appeler Gratianopolis, littéralement la ville de Gratien. Et cette ville, bien sûr, c'est Grenoble ici. Voilà. Donc, à cette époque, au 4e siècle, les Alpes sont sous administration romaine. Donc là, en ce qui nous intéresse, donc la vallée de la Maurienne en particulier, et donc dans ce qu'on appelle les Alpes cotiennes, c'est un sujet qui a été longuement travaillé par Jean Prieur, notre cher Jean Prieur, qui a fait sa thèse en 1968 là-dessus. Je vous laisse vous y reporter si ça vous intéresse. Les choses ont considérablement changé quelques années plus tard, puisque vers 440-443, un peuple qui se trouve sur la frontière du Rhin, un peuple qualifié de barbare par les Romains, ce sont les Burgondes, et un général romain qui s'appelle Aetius va les combattre et les battre, leur infliger une sévère défaite, et ces Burgondes vont être réinstallés un peu plus tard dans une région. Ils vont être installés en tant que peuple fédéré, c'est-à-dire un peuple qui est allié des Romains, et ça va être donc dans cette région, vous voyez, un peu agrandie autour du lac Léman, voilà, autour de 443. Le succès des Burgondes va être effectif, puisque ils vont considérablement étendre leur royaume. On peut penser que c'est pour des raisons fiscales, ils devaient être un peu plus gentils que les Romains. En tout cas, il y a beaucoup de villes du sud-est de la Gaule qui vont se rallier à ce royaume Burgonde. Et quelques années plus tard, donc à peine un demi-siècle plus tard, je prends l'année 517, le royaume Burgonde s'est considérablement étendu dans le sud-est de la Gaule. Je fais une petite parenthèse, par exemple Clotilde, que tout le monde connaît, la femme de Clovis, était une princesse d'origine burgonde, et donc chrétienne. Vous pourriez vous étonner qu'ici je n'ai pas représenté la Maurienne dans ce territoire burgonde, tout simplement parce que rien ne nous permet de l'affirmer. En particulier dans toute la zone que vous voyez ici en marron, ici du royaume burgonde, on a retrouvé au niveau de l'archéologie de nombreuses traces de présence burgonde, de présence sédentaire. Ce qui n'est pas le cas en Maurienne. En Maurienne, bon, l'archéologie est encore à développer, n'est-ce pas, René Chemin, je ne sais pas s'il est là. Mais on a retrouvé la seule chose qu'on a retrouvée, c'est à la chambre, on a retrouvé une fibule zoomorphe, c'est-à-dire une épingle de vêtement avec un motif animal dessus. Mais ce n'est pas cet unique objet qui peut témoigner d'une présence sédentaire des Burgondes en Maurienne. Enfin, il faut savoir que les Burgondes, c'est des soldats, ce n'est pas des agriculteurs. Ils sont peu nombreux, ils sont 20 000 maximum, c'est ce que les historiens estiment, et qu'ils sont davantage intéressés par la collecte d'impôts que par des terres cultivables. Voilà. Et puis, dernier argument qui me permet de préciser cette hypothèse que la Maurienne reste en dehors de cette expansion de Burgonde, c'est que la Maurienne, nous disent les textes, est davantage tournée vers l'Italie, vers Turin, que vers la Gaule. En tout cas, sur le plan ecclésiastique, c'est le cas. Bon, les Burgondes sont bien installés, mais la situation ne va pas durer, puisque à peine une vingtaine d'années plus tard, les enfants de Clovis, donc je vous rappelle qu'il est mort en 511, vont conquérir le royaume Burgonde et vont le faire disparaître. Ce royaume va s'appeler plus tard le royaume de la Burgondie, puis le royaume des Burgondes, le royaume de Bourgogne. Et donc en 534, ils envahissent le royaume Burgonde et en 537, ils atteignent la Méditerranée. Nouveau changement, et là nous arrivons dans la période qui va nous intéresser, le moment où va apparaître la tradition de cette sainte de Maurienne, qui se situe donc dans les années 580. En 568, un nouveau peuple fait son apparition dans cette région. Ce sont... c'est dans cette région ici. C'est un peuple qui s'appelle les Lombards. En 568, qui vont donc envahir cette Italie du nord-ouest, et ils vont s'installer à Milan, à Pavie, à Monza, et ces nouveaux occupants vont faire de fréquentes incursions en Gaule, avec des pillages qui sont attestés par les textes, par exemple à Saint-Maurice d'Agone, et donc les Francs vont réagir. Les Francs, donc à cette période, c'est le roi Gontran, ce fameux roi Gontran dont je vous ai parlé, petit-fils de Clovis, qui est roi à partir de 561, et il va envoyer donc un premier général qui s'appelle Amatus, en français Aimé, qui va être tué dans un combat, donc un succès de l'opération. Et un deuxième général s'appelle Mumol, lui va réussir à repousser les Lombards par deux fois. Et donc cela va mettre un terme aux incursions lombardes, je ne sais pas si j'ai pas dit Burgonde avant, lombardes en Gaule. Ensuite, les Francs vont essayer de finaliser leur opération. Sur un point de vue stratégique, tout bêtement, ils vont donc occuper toutes les crêtes alpines. Ils vont envahir la vallée d'Aoste. Ils vont envahir donc la Maurienne, c'est certain, et aller jusque vers Suse, même plus bas que Suse, dans une région qui s'appelle l'écluse lombarde, que vous connaissez sans doute pour ceux qui vont quelquefois en Italie. Un endroit où se trouve la Sacra di San Michele. C'est le dernier endroit où la vallée est resserrée, vous voyez, donc une position relativement stratégique. Vous avez au fond la ville de Suse, et là les cimes alpines avec le col du Mont-Cenis. Vous l'avez compris, le but d'un roi entreprenant et conquérant, c'est de sécuriser son territoire. Et à la fin du VIe siècle, en tout cas à partir de 580, le roi Gontran a la main mise sur toutes les cimes alpines et tous les cols alpins. Alors vous ne faites pas au col, c'est pas comme aujourd'hui, hein, il n'y a pas que par les cols qu'on passe d'un pays à l'autre, on passe partout en fait. C'est Fernand Braudel qui disait que dans les Alpes, il y a 16 cols, mais on passe partout. Ouais, c'est suivant les années, suivant l'enneigement, suivant les circonstances. Donc le roi Gontran a finalisé cette opération militaire. Il lui reste d'installer dans la région une capitale administrative. Ce pourrait être, avec assez d'évidence, la ville de Suse, qui est une ville romaine d'importance. Simplement, Suse est trop près de Turin, et trop près donc de l'ennemi lombard. Et il va reporter son choix sur une petite bourgade qui s'appelle Moriana, donc notre ville de Saint-Jean-de-Maurienne aujourd'hui. Cette ville, semble-t-il, est vraiment une petite bourgade, en latin un villus locus, donc un lieu de second ordre. Quoi. Difficile d'imaginer sa population, mais sans doute assez faible. Et il choisit quand même cette ville parce qu'elle est relativement bien située, sauf qu'elle n'a aucun statut, elle n'a aucun prestige. Et donc, comme il est de bon ton dans cette époque pour donner une importance à une ville, la transformer en une cité, en latin la urbs. Il va donc installer ici, donc, très précisément autour de l'année 580, un évêché, la création de l'évêché de Maurienne. Bon, voilà, il arrive. Et donc, la date de 579, c'est la date qui est retenue par l'historiographie. Je penchais plutôt pour 581, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est simplement que ce fameux évêque Felmaz qui serait arrivé en 579, en fait, on n'en trouve la trace que dans un seul document, qui d'ailleurs prête à doute, beaucoup de doutes sur ce document. Et en fait, en 580, il y a un autre évêque qui s'appelle Iconius, qui lui est attesté, puisqu'il signe dans des conciles successifs. Donc, peu importe, vous retenez qu'autour de 580, l'évêché de Maurienne est installé, très précisément, à cette date-là. Alors, un tout petit mot sur une vallée que vous connaissez parfaitement, en tout cas autant que moi. Pourquoi cette vallée est intéressante sur un point de vue stratégique, c'est que c'est une vallée glaciaire qui ne laisse le passage à certains endroits que à la rivière, à la route, puis aujourd'hui l'autoroute et la voie ferrée bien sûr. Et ces cinq points, ces cinq verrous glaciaires, qui sont des passages très resserrés, sont des positions éminemment stratégiques. Ce n'est pas un hasard si pendant tout le Moyen-Âge, et même plus tard, c'est dans ces emplacements très précisément où vont être installées des maisons fortes ou même des châteaux forts. J'ai dit même après le Moyen-Âge, puisqu'au XXe siècle, la ligne Maginot a intégré dans son dispositif les forts de l'Essayant. Voilà, c'était une petite parenthèse sur cette vallée que vous connaissez très bien. Je parle dans le contexte également du climat et également des épidémies qui sont assez remarquables pendant le VIe siècle. Tout d'abord, un phénomène récurrent pendant toute la période, tout le VIe siècle, c'est une peste qui nous vient d'Orient, d'où son nom de Justinien, qui est l'empereur. Elle va se répandre dans tout le bassin méditerranéen. On a de nombreuses traces dans les textes, dans la vallée du Rhône, en Italie du Nord. Alors, bien sûr, on n'a aucun texte sur la Maurienne, mais il est difficile d'imaginer qu'une vallée de passage soit restée à l'écart de cette pandémie. Un autre phénomène très remarquable de cette période aussi, qu'il faut mentionner, c'est deux éruptions volcaniques majeures qui se passent au mi-temps du VIe siècle. Et ces deux éruptions nous ont été rapportées par de nombreux auteurs, aussi bien grecs que latins, même hispaniques, et donc avec des conséquences sur le climat très importantes. Alors je vous en donne qu'une, c'est un auteur grec qui s'appelle Procope de Césarée. Je vous mets la traduction ici, vous voyez, c'est... Il nous dit quoi, cette année se produisait un prodige excessivement impressionnant. Le soleil apparut totalement sans rayon, semblable à la lune, et il ne jeta qu'une faible lumière sans éclat, comme s'il cessait d'être actif. Alors il parle que ça ressemble à une éclipse, et puis évidemment, ce genre de phénomène, pour les hommes du VIe siècle, ça ne peut être qu'un phénomène divin, annonciateur de catastrophes. Et il dit donc que depuis cet événement, il y a eu des guerres, de la famine, des pires calamités. Alors ce qui est assez intéressant, amusant et puis réconfortant, c'est que en 2016, des archéologues, des historiens, à la fois américains, européens, se sont regroupés et ont fait une étude sur des glaciers du Groenland. Ils ont fait des carottes de glace Et grâce à ces carottes de glace, on peut analyser, en découpant de fines lamelles dans ces carottes, à l'année près, on peut analyser la composition de l'atmosphère pour cette année donnée. Et donc, pour ces années très précisément, là, 536-541, il relève deux pics de présence de soufre volcanique, qui confirment donc ces textes de ces auteurs du VIe siècle. En conclusion de cette période, vous l'avez compris, c'est une période très troublée, avec des guerres, des invasions, des volcans qui ont une conséquence sur le climat, puisqu'il y a une chute des températures, donc on peut penser aux conséquences sur l'agriculture, et puis bien sûr les épidémies. Enfin, je terminerai dans cette introduction sur un phénomène qu'il faut absolument prendre en compte pour bien comprendre notre tradition de Maurienne, mais d'une façon générale toutes les traditions du Moyen-Âge, c'est l'importance du culte des saints et des reliques. Alors, le culte des saints et des reliques, c'est un phénomène qui est apparu tout d'abord en Orient. Ça se passe à l'époque donc autour des tombes des martyrs. Les fidèles se réunissent, ils font des banquets. D'ailleurs, l'Église n'apprécie pas trop à l'époque ce genre de manifestation. Mais enfin, toujours est-il que les fidèles récupèrent des ossements, les rapportent chez eux, créent des sanctuaires. Et donc, voilà, le développement du culte des reliques et des saints commence en Orient. Et puis, des évêques occidentaux, je pense à Ambroise de Milan, par exemple, ou alors Hilaire de Poitiers, deux évêques qui connaissent très bien l'Orient, vont ramener cette pratique en Occident. Avec quand même un problème de taille, c'est qu'en Occident, des martyrs, il n'y en a pas, ou très peu. Alors bien sûr, vous allez me dire, j'ai appris moi à l'école primaire comme vous, Blandine, au IIe siècle, qui est tuée à Lyon avec l'évêque Cotin. Mais bon, c'est très exceptionnel en Gaule, il y a très peu de martyrs. Et d'ailleurs, on n'a pas retrouvé les corps de ces deux saints, ils auraient théoriquement été jetés dans le Rhône. Donc en fait... il va falloir pallier cette absence de martyrs en Gaule, et le culte des saints va se reporter sur d'autres personnages qu'on appelle les confesseurs, c'est-à-dire littéralement ceux qui ont confessé leur foi dans le Christ, et ce sont essentiellement des évêques, en tout cas des personnages qui se sont fait remarquer pendant leur vie par leur comportement, leur attitude de sainteté et leur exemplarité, dirait-on, dont l'exemple type c'est Martin. Martin de Tours, il va être évêque de Tours, et je crois que vous connaissez un peu cette histoire de Martin. Martin, c'est au départ un soldat romain qui vient de Pannonie. La Pannonie, c'est la Hongrie aujourd'hui. Il vient en Gaule et un jour, dans la région d'Amiens, il croise sur sa route un pauvre sur le bord du chemin, et donc il lui donne la moitié de son manteau de militaire, qu'on appelle une capa en latin. Et donc, cet acte de générosité va lui donner un prestige. Et Martin, donc, va être un saint qui va être honoré universellement en Gaule. On va bâtir autour de cette relique, puisque ce demi-manteau va devenir une relique. On va bâtir autour de ce manteau un édifice pour l'abriter. On va appeler ça une capella, qui va donner ensuite notre nom de chapelle. Et ce saint, donc, est peut-être, on peut dire, le parangon du saint en Gaule. C'est pas un hasard si aujourd'hui en France contemporaine le patronyme de Martin est toujours le patronyme le plus employé, et au niveau de la toponymie c'est pareil, les villages en Maurienne, je crois qu'il y a au moins déjà deux Martins, si je ne me trompe pas, peut-être plus, il y en a partout quoi. Donc c'est vraiment le saint de référence, et ce saint on va lui écrire, et on va prendre l'habitude de le faire pour tous les saints ensuite, on va lui écrire un récit de sa vie. On a donc une vie, la vie de Martin, on appelle ça en latin une vita. Et les saints d'importance vont tous avoir donc une vita qui va être écrite, quelquefois longtemps après leur mort, qui rappelle leurs faits, leurs gestes, leurs actions, éventuellement les miracles qu'ils ont accomplis. Voilà donc pour cette présentation. J'en viens donc à l'apparition de cette légende, vous l'avez compris, donc à la fin du VIe siècle, dans un récit de Grégoire de Tours. Alors qui est Grégoire de Tours ? Grégoire de Tours, c'est un personnage très important du VIe siècle. On peut dire que c'est même l'autorité religieuse la plus importante à l'époque. Il est né en 538, et il est mort en 594, et il est exactement contemporain du roi Gontran. Je vous ai parlé à plusieurs reprises, le roi Gontran va mourir deux années avant lui. Autre point d'importance, c'est que Grégoire de Tours est très proche de ce roi, Il l'apprécie particulièrement, il est même son conseiller à plusieurs reprises. Il écoute ce roi, le roi l'écoute. Et donc, simplement pour notifier que Grégoire de Tours est quelqu'un de, n'est pas seulement un ecclésiastique, c'est aussi quelqu'un qui est parfaitement au courant des arcanes du pouvoir. Alors Grégoire de Tours a écrit beaucoup d'ouvrages, en particulier un qui est le plus célèbre d'entre eux, qu'il a appelé 10 livres d'histoire. Il va être baptisé plus tard Histoire des Francs. C'est ce livre qui nous a permis à nous, écoliers, d'apprendre l'histoire de Clovis, l'histoire des Mérovingiens, le baptême, le mariage avec Clotilde, et puis cet épisode fameux que vous connaissez tous du vase de Soissons. Tout ça, c'est grâce donc à Grégoire de Tours. Alors, ce n'est pas cet ouvrage qui va nous intéresser pour notre tradition de Maurienne. C'est un autre ouvrage de Grégoire de Tours qui s'appelle « À la gloire des martyrs », en latin le « De gloria martyrum ». Et cet ouvrage est un ouvrage ambitieux puisqu'il va essayer de retracer, depuis l'origine de la chrétienté, tous les miracles qui se sont produits jusqu'à son époque, y compris des miracles qu'il a personnellement vécus. Alors, il commence logiquement par le Christ, la Vierge, et ensuite, en troisième position, saint Jean-Baptiste. Et c'est donc au tout début de cet ouvrage, au chapitre 13, sur les 102 que comporte cet ouvrage, qu'on voit apparaître pour la première fois donc cette histoire de Maurienne, la première fois que la Maurienne, disons, atteint une notoriété nationale dans un écrit, en tout cas dans la documentation que l'on connaît. Alors, évidemment, nous n'avons pas de texte de Grégoire de Tours original. À l'époque, on écrit sur papyrus, et il se passe une chose, c'est que le papyrus va disparaître progressivement, parce que le commerce méditerranéen avec l'Égypte va disparaître lui aussi, et donc on va petit à petit se mettre au parchemin, et écrire donc sur un support animal. Donc on n'a pas de texte du 6e ou 7e siècle, ou très peu. Je vous en présente un ici, c'est simplement pour vous montrer à quoi ça aurait pu ressembler, l'écriture de Grégoire de Tours. Donc un papyrus avec une écriture mérovingienne qui est assez difficile à déchiffrer pour nous. Mais par contre, on a la chance d'avoir des scribes carolingiens qui vont, 2 siècles plus tard, donc à l'époque de Charlemagne, reprendre tous les anciens textes, y compris, et c'est une chance, les textes antiques, latins et grecs, et les écrire à nouveau dans une écriture qui est beaucoup plus facile pour nous, puisque c'est une caroline, une écriture minuscule caroline que nous employons toujours aujourd'hui, qui est beaucoup plus facile à lire. Alors, je vous présente ici une copie du texte de Grégoire de Tours, rédigé, donc ça se passe, je crois, à l'abbaye de Corbie, au 9e siècle. Donc, vous voyez une écriture qui est plus proche de la nôtre, hein, on reconnaît facilement les lettres. Et c'est ce texte qui va donc démarrer notre légende. Alors, on voit tout au sommet de l'introduction du texte, on voit très bien ici, vous voyez, Coeda Mulier, donc une certaine femme, il n'y a pas de nom, qui vient de la ville de Maurienne, etc. Et qui, donc, elle obtient, un peu plus loin, on voit ici, donc, voilà, elle obtient un pouce de saint Jean-Baptiste, voilà, qui apparaît sur l'autel d'une façon assez miraculeuse. Il semblerait que ce ne soit pas vraiment une collecte d'ossements dans un tombeau, mais une apparition suite à des prières. Un pouce miraculeux, tout luminescent de lumière. Voilà, donc elle pense que c'est un don de Dieu. Voilà. Alors que nous avons ce texte pour résumer, le tout premier texte. Donc voilà, je vous l'ai dit. Ensuite, cette localité, je vous en ai parlé tout à l'heure, est un lieu de faible renommée. Que cette ville de Maurienne dépendait de Turin. Grégoire de Tours raconte une petite anecdote que 3 évêques voulurent enlever une partie de la relique, quasiment à vol, mais ils n'y arrivent pas et donc ils mettent un linge sous le pouce et le pouce va suinter et 3 gouttes de sang vont tomber et tout content ils vont récupérer chacun une goutte. Voilà, il faut comprendre qu'une relique ça peut être très peu de choses. Ça peut être éventuellement une relique de contact, c'est-à-dire qu'on peut prendre un chiffon, le frotter autour d'un tombeau et récupérer la poussière, et ça devient également une relique. Vous voyez, le culte de relique va très très loin. Grégoire de Tours raconte, c'est assez amusant, même une expérience scientifique pour l'époque où il prouve le poids de la vertu d'un saint. Parce qu'une relique contient la vertu d'un saint, et il raconte que, par exemple, on va à Rome, on prend un linge, on l'introduit dans le tombeau de Saint-Pierre, mais avant, on l'a pesé, ce linge. On a pesé ce tissu, et quand on le ressort du tombeau, le linge est plus lourd Ce qui veut dire qu'il s'est chargé de la vertu du saint, donc on peut peser la vertu du saint. Voilà. Voilà, tout ça c'est pour vous expliquer comment on pense au VIe siècle, oublions nos façons rationnelles de penser du XXIe siècle et essayons de nous mettre à la place de ces gens. Voilà, et puis il raconte à la fin un texte, hein, quelque chose d'assez assez troublant, vous allez voir pourquoi. Donc il part d'un évêque qui s'appelle Rufus, qui on pense que c'est l'évêque de Turin, bien que c'est la seule fois où on entend parler de ce Rufus dans les textes, et qui envoie son archidiacre pour récupérer la relique et la déposer à Turin. Mais cet archidiacre va mourir immédiatement, ce qui prouve que la relique ne doit pas partir de la ville de Moriana pour aller à Turin. Et c'est la conclusion que donne Grégoire de Tours. Il dit « Depuis, nul n'osa changer de place les saints reliquaires. » Voilà donc ce texte qu'il faut bien avoir en tête, qui est très simple, il y a très peu de choses dedans. Vous voyez, il n'y a pas de nom, à part le nom de Rufus. Voilà, c'est très, très limité. Voilà le point de départ de la tradition. Alors, il y a quand même des certitudes. Les certitudes, c'est que, j'en suis persuadé, le culte de Saint Jean-Baptiste se développe très, très tôt dans la ville de Moriana. On en a assez peu de témoignages, mais on en a au moins un qui est absolument formel. C'est en 739, dans le testament d'Abbon. Alors, Abbon, un mot sur lui, c'est un personnage très important, à l'époque de Charles Martel. Et il est recteur, il se dit lui-même recteur de Suse et de Maurienne. Il est très riche, il a beaucoup de possessions dans tout le sud-est de la Gaule. Et donc, dans son testament, il va donner des terres de Maurienne à l'abbaye de la Novalaise. C'est lui qui a fondé l'abbaye de la Novalaise. Et donc, il va donner ses terres, et dans un passage de son testament, on trouve ce texte, vous voyez ici. Ici, Donamus, nous donnons à l'église Saint-Jean-Baptiste de Maurienne. Il suffit de lire ce passage-là pour comprendre que l'église Saint-Jean-Baptiste, en 1639, elle existe. Donc le culte de Saint-Jean-Baptiste existe, et donc on peut penser que des reliques sont présentes déjà à cette époque, et qu'un culte s'est instauré avec des pèlerins qui viennent sur place pour les vénérer. Voilà, il donne à l'église de Saint-Jean-Baptiste, il donne des terrains qui se trouvent à Grenoble pour éclairer l'église. Voilà, les cierges, ça coûte très cher, donc voilà, il faut le financer. Ensuite, un témoignage beaucoup plus tardif, qu'il faut prendre avec des pincettes, qui date du XIe siècle. C'est un moine de Belgique, qui s'appelle Sigebert Jambloux, qui écrit une chronique et qui écrit donc un texte ici, où il reprend ici le texte de Grégoire de Tours. Vous voyez, on voit très, par exemple ici l'épisode des trois gouttes de sang, vous voyez, tres sanguinis gouttas ici. C'est le texte de Grégoire de Tours, un petit peu modifié. Et puis, en tête de ceci, il écrit que la puissance et la gloire de Saint Jean-Baptiste se manifestent par des miracles dans la ville de Moriana. Alors, il met ici une date, vous voyez, 613. Alors, c'est une date qui est quand même près de 40 années après la création de l'évêché de Moriana. Alors, il faut être prudent avec ce genre de témoignage très tardif, pour la simple raison que. Que veut dire Sigebert Jambloux? Est-ce qu'il témoigne effectivement qu'en 613 il se passait ceci dans la ville de Moriana, ou si il parle de la situation actuelle au XIe siècle, où le culte de Saint Jean-Baptiste est avéré dans notre ville, et qu'il reprend simplement le texte de Grégoire de Tours et qu'il met le commentaire au-dessus. De plus, cette date de 613, vous savez, à l'époque, la chronologie, elle est très hésitante, et on ne connaît pas trop la chronologie. 613, c'est simplement une date remarquable. C'est l'année où la reine Brunehaut, qui a été pendant plusieurs décennies la régente du royaume franc pour ses enfants et petits-enfants, et la reine Brunehaut va être capturée, emprisonnée, torturée, elle va être attachée à la queue d'un cheval ou d'un chameau, enfin, on ne sait pas trop. Et donc c'est cette année-là où ça se passe, c'est donc une date qui doit être retenue par l'historiographie, par les érudits. On continue à avancer dans le temps. Entre Grégoire de Tours et le Xe siècle, on n'a rien sur la tradition de Maurienne. La documentation est absente, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait rien, mais aujourd'hui on n'a rien. Et vous allez voir qu'on va pouvoir prouver qu'il existait quelque chose quand même dans la documentation. On arrive au Xe siècle, au tout début du Xe siècle, avec un recueil qui est aujourd'hui donc à la Bibliothèque nationale. Anciennement, donc, il était à la Bibliothèque Colbert, Bibliothèque royale. Et anciennement, il était également, on l'a retrouvé au Puy, aujourd'hui le Puy-en-Velay. En fait, ce recueil, il provient de Vienne. On a pu le montrer de façon certaine, et qu'il a atterri au Puy-en-Velay, mais qu'au départ, il est à Vienne. On a également beaucoup d'érudits ont travaillé sur ces recueils. Donc on a pu déterminer certaines choses que j'ai, moi, de mon côté, essayé de revérifier, et je suis absolument d'accord avec eux. Il a été écrit au tout début du Xe siècle. Il a été écrit sans doute sous la direction du notaire, le chancelier de Vienne, qui travaille pour l'évêque de Vienne, qui s'appelle Garnier, quelqu'un de très érudit, et qui donc est à cette époque à Vienne. Plus exactement, je pense qu'il s'agit d'un de ses scribes, et on va voir pourquoi, qui écrit ce document sous les ordres de Garnier. Alors ce document, voilà, il a cette forme-là. Il a la particularité, dont est écrit au recto et au verso. Au verso, il n'y a pas grand-chose, mais le principal du texte est au recto. Et il a la particularité de se situer tout à fait à la fin d'un recueil qui comporte 202 folios. Donc vous voyez, c'est le dernier folio. Et il est en quelque sorte inséré là où il y avait de la place, sur une page de garde, tout à fait à la fin du recueil. Visiblement, c'est un texte qu'on a voulu mettre là où il y avait de la place. Et que nous apprend ce document? Ben, beaucoup de choses, finalement, vous allez voir. Avec un enrichissement considérable de la légende, avec cette fois une précision temporelle, c'est-à-dire qu'on est au temps du roi Gontran. Donc je vous rappelle, entre 561 et 592. Donc vous voyez, l'année 580 colle très bien. Et puis surtout, on a le nom de cette femme qui s'appelle Tigre, sa sœur Pyménie, originaire de Volakis. Donc Volakis, celle-là, je ne l'ai pas traduit parce que l'historiographie l'a traduite très bien. Ah, alors là, j'ai un problème, vous voyez, ça, j'avais pas prévu. Comment on fait? Voilà, on coupe le téléphone dans ces cas-là, hop. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Donc, Volakis a été assimilé très vite à Valoire. Vous verrez que c'est loin d'être évident. Enfin, donc, voilà, on apprend aussi dans ce texte, pour la première fois, sont mentionnées cette rencontre avec les moines, qui sont dans le récit actuel. Le voyage en Égypte est clairement évoqué. Alors, on ne parle pas de doigts, ni de trois doigts. On parle de reliques, simplement, sans précision. C'est là que le roi Gontran aurait édifié donc une église primitive, armorienne, avant donc l'église que nous connaissons. Cette église, on ne l'a jamais retrouvée pour l'instant. Elle est à chercher. Les générations futures d'archéologues armoriennes la trouveront peut-être un jour. Mais il est très probable qu'il y ait eu une église primitive avant celle que nous connaissons. Et donc, c'est aussi dans ce texte qu'on apprend que le premier évêque, je vous en parlais, s'appelle Felmaz, et qu'il a été intronisé au concile de Châlons en 579. Voilà donc beaucoup d'éléments de la légende qui sont déjà présents au Xe siècle. Et survient dans ce texte quelque chose d'assez bizarre, c'est que dans ce texte qui précise, donc, qui raconte une tradition, on arrive à une mention qui est purement administrative. On apprend que Suse est rattachée à la Maurienne avec l'accord du pape. Ça commence à ressembler à autre chose que le texte qu'on imaginait au départ. Alors l'historien, quand il voit cette mention, il sursaute un peu, parce que Suse rattachée à la Maurienne avec l'accord du pape, c'est en contradiction formelle avec l'attitude du pape Grégoire le Grand, qui en 599 va écrire deux lettres au roi Franc, plus exactement à cette fameuse reine de Bogno, et pour protester violemment contre l'installation d'un nouvel évêque en Maurienne, qui a remplacé l'évêque Ursicin, qui était l'évêque de Turin, soi-disant parce que Ursicin était prisonnier des Lombards, et donc que le roi Gontran aurait installé un nouvel évêque à sa place, et que surtout, on lui a ravi des paroisses, on lui a volé des paroisses. Donc effectivement, les paroisses jusqu'à Suse ont été récupérées par l'évêché de Maurienne, nouvellement installé. Donc vous voyez, cette mention là commence à jeter une certaine suspicion sur ce texte. On va voir un peu plus loin. Et également, encore plus administratif, on va dire, ce texte profite pour affirmer la juridiction de la Maurienne vis-à-vis de Vienne, c'est-à-dire que Vienne contrôle l'évêché de Maurienne. C'est quelque chose qui va être affirmé d'ailleurs pendant de nombreux siècles par Vienne, qui cherche à récupérer le contrôle des diocèses avoisinants. Donc ce texte, en dehors de la précision de notre légende, il donne aussi des infos qui sont d'ordre administratif et sur lesquelles nous allons nous plonger quelques instants. Et je vais donc faire appel un peu à votre participation. Je vais vous faire entrer quelques instants dans ce que j'appelle l'atelier de l'historien. C'est-à-dire comment, à partir d'un texte, donc le texte que je vous ai présenté, on va essayer de le regarder plus en détail pour essayer d'en tirer la substantifique moelle. Alors, moi, j'ai l'habitude de comparer le travail d'un historien avec celui d'un enquêteur judiciaire. On part d'un crime. Alors, le crime, ici, c'est le texte. Et, voilà. On part également d'une datation, enfin, l'heure du crime. La datation, je vous l'ai dit, hein, c'est 912. Environ 912, donc ça on va pas le faire, on considère que c'est acquis. On va chercher également le lieu du crime, voilà. Donc ici on a dit que c'était Vienne, donc ce travail est fait. On va chercher des suspects. Alors les suspects, ben, les suspects c'est ce clerc dont je vous ai parlé, on va essayer de mieux le comprendre, de l'interroger, voir ce qu'il nous raconte. Et puis également Garnier, son supérieur, voilà, donc les suspects. On va chercher également des indices. Ça, c'est vous et moi, nous allons le faire ensemble. Et puis, on va chercher également le mobile du crime. Pourquoi ce texte a-t-il été écrit à Vienne en 912? Alors, je... Et puis, on fera peut-être le procès après, on verra. En tout cas, le texte, voilà, je vous le remets à l'écran, se présente sous cette forme-là, il se présente donc à la fin d'un recueil. Alors, je fais appel à votre sagacité, votre sens de l'observation, sans regarder ce qu'il y a dans le texte, mais juste dans la forme, est-ce qu'il y a des éléments qui attirent votre attention?
Pas judiciaire.
Oui, absolument. Voilà, vous avez dans cette partie, on le voit très bien, une partie découpée. Alors, comment l'interpréter? C'est difficile, mais on peut supposer que... Je vous ai dit que ce texte était écrit sur une page de garde, tout à fait à la fin du livre, du recueil. Donc, ici, on peut penser qu'il y avait peut-être une dédicace, une date ou un commentaire... Qui n'était pas en rapport avec l'objet de ce document et qu'on a voulu le supprimer. Alors on aurait pu le gratter, ça se fait couramment avec un couteau, mais là on a sans doute préféré couper. On peut même aller plus loin, on peut même dire que cette découpe est certainement simultanée de la rédaction du texte, puisque le scribe, lui, a bien respecté cette marge ici, vous voyez, il s'est arrêté, donc on peut penser que cette découpe a été faite immédiatement. Donc voilà, on commence à progresser dans notre enquête, on cherche les éléments. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous attire votre attention sur ce document? Dans sa forme encore.
La marge est à droite.
Oui, absolument. C'est dans la partie haute du texte, il y a quelque chose qui est quand même assez bizarre. Si je vous l'agrandis ici, donc vous avez ici le texte principal qui est écrit d'abord en gras, vous voyez. Et dans la partie supérieure, ces deux lignes ici, aussi bien la colonne de gauche que droite, sont écrites avec une écriture plus pâle, et puis une écriture plus serrée, plus petite, et là on voit visiblement que le scribe n'a pas eu la place de tout écrire, et qu'il a dû terminer dans la marge. Donc, ça pose question, voilà, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et on peut penser, par exemple, à une reprise d'encre. Une reprise d'encre, c'est lorsque le scribe n'a plus d'encre sur sa plume, il la retrempe dans l'encrier, il recommence à écrire. C'est ce qui aurait pu se passer ici, vous voyez. Là, il retrempe sa plume et il continue à écrire. Bon, ok. Mais alors, pourquoi cela se passe-t-il exactement de la même façon au sommet de la deuxième colonne? C'est assez peu probable. Donc, ce qu'on peut affirmer, c'est que, oui, il y a eu une reprise d'encre, mais simplement que ce texte ici, là, a été écrit à un autre moment que le texte dessous. Alors, à un autre moment, on ne peut pas le préciser. Hein. Ça peut être... une heure après, deux jours après, une semaine après, je n'en sais rien. En tout cas, les deux textes sont visiblement séparés. Ce texte-là n'est pas le même texte que celui-ci. Et qu'on a rajouté ça ou on l'a mis avant, je ne sais pas pour l'instant. Voilà. Alors, il faut éliminer également une autre hypothèse. Sur la couleur de l'encre, on pourrait dire, oui, c'est parce que à cet endroit-là, on a peut-être gratté le document et l'encre est plus rentrée dans le parchemin. Alors, c'est ce qu'on appelle un palimpseste. Un palimpseste, c'est un... À l'époque, le parchemin coûte très cher, donc on réutilise souvent des vieux parchemins qui ne servent plus à rien, ou qu'on estime qu'ils ne servent plus à rien, dommage pour l'histoire, mais bon, et on les gratte et on réécrit par-dessus. Donc ça pourrait être le cas ici, ça pourrait expliquer pourquoi cette zone est plus claire.
Et est-ce que la personne, le scribe, qui ne voulait pas mettre beaucoup plus d'éléments, puisque, semble-t-il, l'écriture est beaucoup plus petite et plus fine que le texte en dessous.
Oui.
Et n'a-t-il pas voulu concentrer ce qu'il voulait dire dans le parchemin, la surface dont il pouvait disposer?
Voilà. Mais moi, je ressens, si vous voulez, C'est, visiblement, il s'applique parfaitement dans le document, il est parfaitement formaté, comme on dirait aujourd'hui, les marches respectées, les interdits. Et dans cette partie-là, on a l'impression que vraiment, il tasse son écriture, il veut absolument mettre un texte, et il n'a pas la place de le mettre ailleurs. Alors on va essayer de trouver ce qu'il écrit, pourquoi il écrit à cet endroit-là. Donc, on voit très bien, donc ça c'est les parties qui sont vraiment différentes. Alors dans la recherche de ce palimpseste, ce vieux document qu'on aurait gratté pour écrire par-dessus, donc là c'est l'écriture dans la marge, on va chercher donc au verso du manuscrit. Vous avez ici donc la fin du texte hein, qui est écrite, et puis là donc une partie vierge où on distingue vaguement donc une écriture derrière. On va essayer d'analyser ceci avec des moyens scientifiques plus modernes pour essayer de voir si on peut voir par transparence le texte de l'ancien texte. Alors on utilise pour ça par exemple une lampe de Wood, hein, une lampe à ultraviolet. Et puis si ça ne suffit pas, on utilise un appareil à rayon X. Voilà, ça marche assez bien. Alors j'ai demandé à Pierre, malheureusement la CHAM n'a pas encore investi dans un appareil à rayon X. Donc je vous l'ai refait par une simulation numérique. Donc voilà, dans cette zone. Voilà, je le passe en noir et blanc. On commence à distinguer un petit peu. Et je vais augmenter le contraste petit à petit. Donc vous voyez apparaître un texte évidemment écrit à l'envers. Puisque c'est. Voilà, le texte apparaît de plus en plus. Voilà. Il est clairement lisible, enfin du moins certains mots. Et pour l'identifier, il suffit de faire un effet miroir pour le retourner. Donc on retourne le parchemin et on voit apparaître parfaitement ici le démo de la première page. La conclusion est évidente, c'est qu'il n'y a pas eu d'ancien texte. Donc l'hypothèse du palimpseste tombe à l'eau, elle est éliminée. Alors on continue dans notre enquête. On va s'intéresser au scribe. Le scribe, donc, qui est installé à son pupitre à Vienne, je pense qu'il est vraiment débutant. Je pense qu'il maîtrise très mal le latin. Je ne sais même pas s'il comprend ce qu'il écrit. Par contre, il est très appliqué. Et il essaie de faire au mieux en fonction de ses compétences. Alors, toutes ces affirmations, on va essayer de les prouver. Un peu plus loin dans le texte, on trouve ceci. Il écrit ceci. Alors il parle ici des cendres de Saint-Jean-Baptiste, voilà, et dire qu'elles furent, il utilise un adjectif ici, humana, au singulier, bizarre, inquiluetetem Samaria, dans la ville de Samarie. Je crois qu'il y a la traduction là, voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose, quoi, surtout un mot au singulier. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Alors, comment comprendre cette erreur qu'a-t-il voulu dire? On a dans notre enquête une chance, on a un nouveau témoin qui arrive et qui nous apporte, qui fait progresser l'enquête. Ce témoin, c'est un document moriennais qui est resté très longtemps dans les archives de l'évêché de Maurienne. On l'appelle la charte de Maurienne et de Sud, la carta de Moriana et de Cesia. Aujourd'hui, elle est aux archives départementales de Savoie, à Chambéry. Et ce texte, ce manuscrit sur parchemin, présente la particularité d'être quasiment le clone du document que nous sommes en train d'étudier. Donc c'est très intéressant pour nous, parce qu'on va pouvoir comparer les deux, et voir peut-être si ça peut nous aider à retrouver des explications pour notre document de Vienne. Donc cette charte de Maurienne, et de Sud, se présente de la façon suivante. Alors ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, vous voyez. Et il se trouve que c'est presque au mot près le texte de Vienne, avec quelques petites différences que j'ai soulignées ici, voilà, mais les différences sont mineures. C'est souvent une orthographe différente parce que le latin a évolué depuis. Alors cherchons dans cette charte de Maurienne ce que le scribe de Maurienne, qui lui est très compétent, il écrit bien le latin, il le corrige correctement, il ne fait pas d'erreur. Il écrit tout simplement à la place d'Humana, il écrit Humata. Et là le texte prend tout son sens puisqu'il parle des cendres qui furent inhumées dans la ville de Samarie. Bon, une première erreur de ce scribe. Alors je vous en donne quelques autres. Ici, il écrit, et il écrit deux fois le même mot. Vigilis, vigilis. Vigilis, ce sont les veilles. Il parle des sœurs Tigre et Pémini qui prient et qui font des veilles la nuit. Bon. Et donc il s'aperçoit de son erreur. Alors aujourd'hui, on utiliserait un effaceur. À l'époque, on utilise ce qu'on appelle des points d'expontulation. Donc il dit, là voilà, ne tenez pas compte de toutes ces lettres, je me suis trompé. Voilà. Mais il n'écrit rien d'autre. Alors regardons encore une fois dans le texte de Maurienne. Comment écrit-il? Eh bien, cette fois, il n'y a pas de doute, il écrit le mot Yéonis qui signifie des jeunes. Voilà. Alors cette erreur, qui peut sembler anecdotique, est très intéressante pour nous parce que on voit que le scribe écrit, je pense que vous serez d'accord avec moi, il écrit en copie d'un document. C'est le genre d'erreur qu'on ne fait pas sous la dictée, par exemple, de quelqu'un. C'est le scribe à côté de lui, un document original, et il essaye scrupuleusement de recopier son manuscrit original, et il le copie deux fois le même mot. Donc une erreur de copie, ça nous indique qu'il existait des documents avant celui-ci, puisqu'il a un modèle. Un petit peu plus loin, il veut écrire, il parle de l'évêque Isdicus, qui est un évêque de Vienne, qui a été choisi pour consacrer l'église de Maurienne, et qui veut écrire le verbe praekepit, et il écrit en fait un P, il écrit un E, et puis il s'est trompé là, puisqu'il fallait mettre un R à la place du E. Donc il met un petit point d'exponctuation pour éliminer son E, il écrit son R, et puis il essaye de caler le A sous le chapeau du R. Là. Bon, on voit très bien qu'il hésite beaucoup. Si on regarde encore une fois le manuscrit de Maurienne, cette fois il n'y a pas d'erreur. Alors, sacrare est devenu consacrare parce que le latin a évolué. Entre temps, praecepit est devenu precepit parce que les doubles voyelles sont supprimées progressivement dans le latin plus moderne. Et puis, enfin, dernière erreur que je soulignerai pour vraiment vous prouver que ce scribe a de très faibles compétences et qu'il fait ce qu'il peut, il invente un mot latin. Voilà. Il parle ici de cette dernière phrase où Suse a été rattaché à la Maurienne et il dit cela s'est fait. Depuis longtemps, avec l'accord, et il emploie ce mot-là, habitalis, que vous distinguez très bien, un mot qui n'existe pas en latin. A-t-il voulu dire habitant? Mais alors, déjà, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'à l'époque, on ne fait pas un référendum pour choisir. Voilà, donc c'est pas les habitants qui décident ou qui donnent leur accord. Hein. Enfin, donc ce mot-là, en tout cas, n'existe pas, et on cherche à comprendre ce que le scribe a lui-même compris. Donc on se reporte avec joie au document du XIIe siècle en Maurienne. Et cette fois, on comprend très vite que voilà, c'était pas habitalis, c'était en deux mots, ab italis, c'est-à-dire avec l'accord des Italiens. Sous-entendu, l'accord de Turin et l'accord du pape. Voilà. Donc vous avez compris que voilà, je remets en cause un peu les compétences de ce scribe, bien qu'il s'applique à faire quelque chose de relativement bien. Donc on va se diriger tout doucement vers le mobile du crime, c'est-à-dire l'objet de ce document, en remarquant quand même encore quelque chose de très intéressant. Donc là, j'essaie de vous reconstituer le texte qui aurait pu être le texte source sur lequel s'appuie le scribe. Il a sous les yeux un texte avec entièrement une page complète couverte, et on lui dit « tu vas recopier ce texte sur le folio 202 du manuscrit de Vienne ». Mais tu vas laisser une marge au sommet pour qu'on mette ta titre. Alors il a fait ce qu'on lui demande de faire, il recopie scrupuleusement le texte, mais en laissant donc un décalage, il écrit, et puis ici il n'a pas la place de tout écrire, en particulier ces trois lignes que j'ai mises ici, il n'a plus la place de les écrire, donc logiquement ce que nous ferions, c'est que nous les reporterions au sommet de la deuxième colonne, mais lui ne fait pas ça. Il recopie scrupuleusement ce qu'il a sous les yeux, et il écrit donc au sommet de la deuxième colonne ce qu'il voit au sommet de la deuxième colonne. Ce qui fait qu'il oublie en fait cette partie-là. On le verra après en plus gros, vous voyez, c'est flagrant. Ensuite, donc il écrit son texte, il arrive ici au bas de la page, il écrit la fin que vous avez vue tout à l'heure au verso, et puis, une heure après, on ne sait pas, on lui dit « maintenant tu vas écrire le titre ». Et puis on lui fait la remarque, ou si peut-être l'a-t-il constaté lui-même, qu'il a oublié ici ce texte, et il faut qu'il le case. Alors, peut-être avait-il eu l'intention de mettre un titre sur toute la hauteur, toute la largeur du manuscrit. Donc il va tasser son titre sur la première colonne. Ce titre, on s'aperçoit tout de suite qu'il est très important, puisque c'est lui quand même, on pourrait dire aujourd'hui, d'un acte de propriété, quoi. Preuve, en latin auctoritas, que depuis les temps les plus anciens, l'église de Maurienne dépend de l'église métropole de Vienne. Donc on commence à voir le mobile du crime, le mobile du récit, l'objet du document. Et puis ensuite, il fait la chose suivante, c'est qu'il va mettre le texte manquant, il va le tasser ici, en écrivant très serré, en allant dans la marge, là où il ne peut pas. Voilà. Dernière remarque sur ce document, ça concerne à la fois le document de Maurienne et le document de Vienne, c'est l'orthographe de Sud. La façon dont c'est écrit en 6 lettres, Seusia, c'est très surprenant. Vous voyez, on le trouve aussi bien dans le titre que dans le texte, et dans le manuscrit de Vienne, de la même façon. C'est très très surprenant. La raison, elle est relativement simple, on va la voir. Alors pourquoi c'est surprenant? Parce que Suse ne se dit pas Seusiam. Seusiam. Les Romains parlent de Ségusio, Grégoire de Tours de Ségusium. Même les chartes de Maurienne, je crois qu'il y en a 6 qui parlent de Suse, utilisent le terme Ségusia. Et on ne retrouve cette orthographe Seusia nulle part ailleurs, dans aucun texte médiéval ni moderne. Il faut attendre l'époque vraiment moderne pour avoir Suse. Et donc il se trouve que les seuls documents qui possèdent cette orthographe sont le manuscrit viennois et la charte de Maurienne. Alors essayons de trouver pourquoi il s'est trompé, et on va le voir très très bien ici. En fait, vous savez qu'il recopie un document existant, qui est peut-être détérioré, qui est peut-être mal écrit, et donc il n'arrive pas très bien à lire. Ajoutons qu'il ne sait sans doute pas ce que veut dire Suse, enfin la ville de Suse, il ne la connaît sans doute pas, il ne connaît pas son orthographe, et donc il écrit ici un S, vous voyez ce qui ressemble pour nous à un F, et là il ne sait pas si c'est un E ou un C. Alors il écrit d'abord un C, ici, vous voyez un C, vous en avez un ici qui est très bien formé, là, ici par exemple, voilà. Et puis, il ne sait pas si c'est un E, alors il rajoute un petit chapeau sur le C. Vous voyez, un E bien formé, vous en avez un ici. Là. Et en fait, il écrit soit Scousiam, soit Seusiam, il ne sait pas trop. En fait, et cette erreur est reproduite, curieusement, dans le manuscrit de Maurienne. Ça nous prouve simplement que celui qui a rédigé le manuscrit de Maurienne avait sous les yeux celui de Vienne. Puisque cette erreur, il n'a pas pu l'inventer tout seul, il l'a recopié sur un document, et c'est le seul document que nous connaissons, c'est celui de Vienne. En conclusion de cet atelier d'historien, bon, j'arrêterai de trop solliciter, vous avez compris, bon, ben, je n'insiste pas davantage, qu'il a de faibles compétences, ensuite qu'il recopie, il copie un texte antérieur, alors je vous ai parlé tout à l'heure d'une vie de la Sainte, effectivement, le texte ressemble beaucoup à une sorte de vie de la Sainte, et ce qui nous prouve donc qu'il existait un texte antérieur. Ensuite, on voit que ce document est un document fabriqué. Il est fabriqué non pas dans un but hagiographique, c'est-à-dire religieux, il est fabriqué dans un but administratif, en mentionnant donc ce qu'on veut dire, c'est-à-dire cette suprématie de Vienne sur la Maurienne, cette dépendance de Maurienne vis-à-vis de Vienne. Et dans cette époque, l'authenticité d'un document est apportée par l'antériorité de la preuve qu'on apporte. C'est-à-dire que là, à Vienne, on affirme ceci et on met comme preuve un texte qui a comme origine un récit de Grégoire de Tours, qui est donc très ancien et qui est donc une sorte d'authenticité de ce document. Donc c'est un faux, en fait. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un faux, c'est un vrai faux. C'est un vrai document administratif, mais qui a été arrangé pour justement prouver que ce manuscrit aurait pu être beaucoup plus ancien que le 9e siècle. Voilà, donc on a trouvé le mobile un peu de ce document. Ensuite, vous l'avez dit, hein, donc les deux manuscrits sont une filiation entre eux. Et également, on peut dire également que la légenda de Tigre existait sans doute bien avant le 10e siècle. Et c'est assez logique, alors là j'ai aucune preuve à vous apporter, mais c'est simplement une hypothèse, c'est qu'à partir du moment où le culte de Saint-Jean-Baptiste est installé dans la ville de Moriana, il est très difficile de penser qu'il n'y ait pas une histoire circonstanciée qui raconte comment ces reliques sont arrivées ici, et donc l'histoire de Tigre a dû commencer bien avant le 10e siècle, ce qui nous est prouvé d'ailleurs par le fait qu'il existait déjà une vita écrite avant ce 10e siècle. Ce récit, il faut un récit pour raconter ça aux pèlerins de passage qui viennent vénérer les reliques de Saint-Jean-Baptiste, ou même pour la population locale, les fidèles qui viennent le dimanche à la messe. Enfin, les points qui ne sont pas encore évoqués, il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore évoqués à cette époque, on ne parle pas du détail du voyage, La vie hérémétique de Tècle, de Tigre, j'appelle Tigre pour l'instant, de Tigre dans une grotte n'est pas encore évoquée. Les doigts de Saint Jean-Baptiste sont mentionnés comme des reliques uniquement. Et c'est là que, soudainement, au XIIe siècle, va apparaître le patronyme de Tècle dans un texte, de Petrus Comestor, en français donc Pierre le Mangeur. On peut penser qu'il avait d'autres appétences qu'intellectuelles, si on se fie à son nom. Donc Pierre le Mangeur écrit un texte très étonnant où justement il introduit ce patronyme de Tech. Il dit donc qu'elle traverse les Alpes et qu'elle ramène dans l'église de Maurienne un doigt de Saint Jean-Baptiste. Voilà. Alors, ce texte est corroboré par un autre texte contemporain de Jean Belette, à la même époque, qui raconte également, avec le nom de Tech ici, vous voyez, encore une fois, qui a traversé les mers, Transmarinis, et qui est venu donc en Mauritanie. Et l'église fut construite et dédicacée à Saint Jean-Baptiste. Alors, vous pouvez être surpris par le nom Mauritanie. Bon, il ne faut pas être vraiment surpris parce que, à cette époque, la différence entre Mauritanie, Maurienne et Maure, la terre des Maures, n'est quelque chose qui est à peu près admis. On pense que la Maurienne, c'est la terre des Maures. Ce que vous, maintenant, vous savez qui est erroné, puisqu'on l'a rencontré dans le texte de Grégoire de Tours au VIe siècle, le terme Mauriena. Donc, en fait, l'étymologie de Maurienne ne vient pas de Maure, puisque les inventions sarrasines sont bien postérieures au récit de Grégoire de Tours, plusieurs siècles après. Donc, cette persistance de cette fausse étymologie va persister pendant tout le Moyen-Âge. Et même, si je me souviens bien, je crois que l'hôtel des villes de Saint-Jean-de-Maurienne a été bâti en 1888, je crois, un truc comme ça. Et sur la façade de l'hôtel des villes...
1860.
L'année actuelle 1860. Je vérifierai.
C'est un cadeau de la France.
Oui, mais est-ce qu'il s'est construit tout de suite ?
2-3 ans après.
D'accord. Bon, très bien, le maître Pierre a parlé. Il est président, alors je ne peux pas aller lui contredire. Donc, cet hôtel de ville, on a représenté sur la façade, donc bien sûr les reliques de les trois doigts de Saint-Jean-Baptiste, à ma couronnée, mais on a représenté dessous une tête de mort. En 1890, on pensait encore que la Maurienne, c'était autrefois la terre des morts. Voilà. Donc c'est pour expliquer ce Mauritanien qui apparaît dans le texte de Jean Belette. Toujours est-il, survient d'un seul coup comme ça, ce sont des érudits parisiens, ce ne sont plus des Mauriennais ni des Viennois, ils sont à l'extérieur du contexte local, et ils racontent cette histoire avec un nouveau patronyme. C'est très surprenant, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc la traduction de ce texte. Pourquoi Tech ? D'abord, pourquoi... Ce nom devient si fréquent dans cette tradition, tout simplement parce que il existe beaucoup de textes déjà, hein, mais bon, on va en retenir que deux. Une qui s'appelle Tècle d'Iconium, et puis bien sûr notre Tècle local, Tècle Tigre local. Cette Tècle d'Iconium est un personnage très important. Elle aurait été une compagne de saint Paul au 1er siècle. Alors, notez bien son parcours, qui est assez troublant. Bon, elle va être martyre, trois fois elle va être martyre, à chaque fois elle survit. Et elle finit sa vie dans une grotte. Cette Tècle va avoir une très grande notoriété dans tout le monde chrétien, aussi bien oriental qu'occidental. Et elle va avoir une réputation de sainteté comme un des personnages de tout premier plan dans tout le monde chrétien, dans l'ensemble du monde chrétien. Alors je me suis amusé à essayer de rechercher par exemple les édifices qui avaient été consacrés à Tècle, Tècle d'Iconium, hein, pas Tècle de Maurienne. C'est une parenthèse, mais Tècle de Maurienne n'a qu'une seule église qui lui est dédicacée, c'est le Bourget en Ville, donc à Maurienne. Tècle d'Iconium a des édifices, alors ça peut être des toponymes, des noms de lieux, des chapelles, des églises, donc il y en a, sans surprise, il y en a en Orient, c'est de là où elle est originaire. Il y en a dans un grand périmètre d'Italie du Nord et du sud-est de la Gaule, jusqu'en Suisse, de par exemple Chamalières, en France aujourd'hui, et puis, surprenant, en Pologne. Voilà. Donc, ce prestige de Tècle est dû, il y a de nombreux textes qui l'affirment. Au IVe siècle déjà, il y a un auteur qui s'appelle Grégoire de Nice. Il parle d'une autre sainte qui s'appelle Sainte Agnès et il dit c'est la Thècle occidentale. Il dit c'est ce que Thècle, c'est le modèle de la perfection chrétienne. Donc c'est un peu comme, c'est un nom qui devient générique un peu pour les anciens. Et c'est comme si on disait aujourd'hui d'une personne particulièrement remarquable, une femme, on dirait c'est une mère Teresa. Voilà, c'est un nom qui devient un peu générique. On le retrouve chez Grégoire de Tours. Il parle de Mélanie, qui est une femme romaine qui va à Jérusalem. Et il dit qu'elle s'y conduisit tellement bien que tout le monde l'appelait Thécla. Pour finaliser ce point, il suffit de se reporter au XVIIe siècle avec le cardinal Baronius, qui nous dit « Les anciens pères, quand ils voulaient remarquer une femme d'excellence, ils la nommaient Thècla. » Voilà, donc tout est dit. C'est donc, vous voyez l'opposition qui peut exister entre la notoriété de Thècla et le patronyme de Tigre, qui est très peu répandu et qui est uniquement maurienne. Même le grand Martin dont je vous avais parlé, le Martin de Tours, lorsqu'il a des insomnies la nuit, il voit des apparitions de la Vierge, et il voit la Vierge qui est accompagnée de Sainte Thècle et de Sainte Agnès. La légende de Maurienne, le culte des reliques de Saint Jean-Baptiste en Maurienne, va être considérablement popularisé au siècle suivant, dans un récit on dirait aujourd'hui, c'est une sorte de best-seller du Moyen-Âge. C'est la légende dorée de Jacques de Voragine, qu'il écrit vers la fin du XIIIe siècle. Jacques de Voragine, c'est un Génois. Donc vous voyez, on commence à sortir de Gaule et de France. Et on retrouve même des témoignages avec Johannes Eck en Germanie. Le récit de Maurienne se déplace dans toute l'Europe, dans tout le monde chrétien. Et on peut imaginer en contrepartie un pèlerinage, des pèlerinages qui viennent, des pèlerins qui passent et qui s'arrêtent à chaque fois que, en tout cas, s'ils viennent exprès ou pas, mais en tout cas, on peut imaginer que c'est une période où les pèlerins sont nombreux dans notre ville de Maurienne. Alors Jacques de Voragine est très honnête parce qu'il il parle ici, vous voyez, d'un texte qui ressemble à celui de Grégoire de Tours, il n'avait pas son nom. Et puis en dessous, il nous raconte une histoire similaire qui se passe cette fois en Normandie. Et là donc, on va comprendre très vite pourquoi les auteurs précédents que nous avons évoqués, Jean Belette et Pierre le Mangeur, ont écrit Thècle et non pas Tigre. Tout d'abord parce qu'ils ne connaissaient pas le nom de Tigre, sans doute, puisqu'ils repartaient du récit de Grégoire de Tours. Et ils vont mettre donc en application le fait qu'ils connaissent une légende très similaire, une légende cette fois normande, où il s'agit d'une Thècle qui revient d'Alexandrie, qui ramène un doigt de Saint Jean-Baptiste et qui le dépose en Normandie. Ce doigt donc l'histoire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à notre histoire à nous. L'histoire de ce doigt d'ailleurs va être ensuite transféré dans le diocèse de Quimper. Il se trouve aujourd'hui en Bretagne, donc à Saint-Jean-du-Doigt, et il y a toujours un reliquaire aujourd'hui à Saint-Jean-du-Doigt avec ce doigt de Saint Jean-Baptiste. Et donc ces deux histoires, l'une n'a pas de nom, le récit de Grégoire de Tours. On peut penser que Pierre Comestor ne connaît pas le texte de Vienne, il connaît celui de Grégoire de Tours. Et l'autre histoire, celle de Normandie, qui a un nom, Thècle. Et donc il assimile les deux histoires, et dans une interpolation des deux histoires, il introduit ce nom de Thècle, qui va s'imposer très rapidement. Voilà, donc ce récit continue au siècle suivant. C'est toujours cette histoire dans un poème anonyme au XIVe siècle, on parle, alors cette fois c'est en français, voilà, d'une bonne dame qui voua, donc qui jura, que jamais ne mangera celle n'avoit des reliques de Saint Jean. Voilà. L'histoire continue. Et alors la consécration survient au siècle suivant, au XVe siècle. On a une bulle papale de Jean XXIII qui nous dit, alors cette fois-ci très précisément, que l'église de Maurienne conserve deux doigts de la main droite de Saint Jean-Baptiste, l'index et le médius. Ben, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le pouce, le médius et l'annulaire. Et il parle des nombreux miracles qui se réalisent donc dans la ville de Maurienne. Alors bon, ce genre de texte est souvent ce qu'on appelle des textes sollicités, c'est-à-dire que c'est l'évêque de Maurienne qui demande au pape, moyennant sans doute une rétribution, d'écrire ce texte. Voilà. En tout cas, c'est donc une reconnaissance au plus haut niveau du culte de Saint Jean-Baptiste en Maurienne. Alors, vous pouvez être surpris par le numéro du pape. Hein. Voilà, les plus anciens d'entre nous ont connu un Jean XXIII au XXe siècle, avant Paul VI. En fait, ce pape Jean XXIII, il survient à l'époque du grand schisme d'Occident. À cette époque, il y a trois papes dans la chrétienté. Et donc, il va très très vite disparaître, il va être rayé des tablettes. Et donc, son numéro va être de nouveau disponible. C'est ce qui explique qu'on va le réutiliser donc, au XXe siècle. Alors, je vous emmène un petit peu loin. Je reviens donc à Maurienne et on arrive au début du XVIe siècle en Maurienne avec un ouvrage qui est très important, puisque c'est celui qui va vraiment ramener l'histoire complète en Maurienne. Enfin, en tout cas, c'est la première trace documentaire qu'on ait. Donc, c'est ce qu'on appelle le bréviaire Gorébeau, je l'ai mis entre guillemets, parce que, en réalité, c'est Yvan Caporizo qui m'a justement souligné que le terme de bréviaire était assez mal approprié. Est-ce que vous voulez intervenir pour dire pourquoi? Enfin, c'est simplement que, en fait, c'est un ouvrage beaucoup plus complet qu'un bréviaire. Je parle sous votre contrôle. C'est un missel, à la fois. Il y a une liste de litanies à l'intérieur. En fait, c'est plus, on dirait peut-être aujourd'hui, un vade-mecum pour les clercs. Peut-être qu'ils transportent avec eux, avec tout ce qu'il faut savoir pour exercer son sacerdoce. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors donc, on trouve dans ce... Alors, ce bréviaire Gorébeau, c'est du nom, bien sûr, de l'évêque de Maurienne qui s'appelle Gorébeau, qui est aussi chanoine de Genève, et c'est là qu'il fait imprimer donc ce document, ce livre, qui est donc imprimé cette fois avec, vous le voyez, les trois doigts de Saint-Jean-Baptiste sur la couverture. Dans ce recueil, on trouve une liste de litanies, c'est assez surprenant, ça n'est pas forcément, mais où on trouve à la fois Sainte-Tigre et Sainte-Thècle. Alors, disons, sur un point de vue canonique, il s'agit forcément de deux personnes différentes. Tigre de Maurienne, on est d'accord, et Thècle d'Iconium. Ça peut être que Thècle d'Iconium. Il ne peut pas y avoir, a priori, c'est en tout cas ce que Jean-Pierre affirme, mais il ne peut pas y avoir deux saintes mentionnées sous deux noms différents. La même sainte mentionnée sous deux noms différents. Alors, mais nous allons voir que ce n'est pas si clair que ça. Quand on regarde à l'intérieur de ce bréviaire, on trouve ici donc, la page qui correspond au 25 juin, donc le jour de la fête de Sainte-Thècle. Et on trouve, donc, je vous agrandis peut-être l'introduction, voilà. On trouve ici donc une illustration. Vous voyez que l'illustrateur, il a représenté lui une main complète. Hein. Et on trouve dans ce texte le nom, vous voyez, c'est en abrégé, nominé, le nom de Tigris, de Tigre. On ne parle pas de Thècle, on parle de Tigre. Et partout à l'intérieur de ce bréviaire, il n'y a que le nom de Tigre, en dehors de la litanie que je vous ai montré de la première page, où le nom de Thècle est mentionné. Alors, cette fois l'enquête, je la fais rapidement à votre place. On va chercher un autre document qui se trouve à l'évêché de Maurienne aujourd'hui. C'est un ancien obituaire. Un obituaire, c'est en quelque sorte un registre des morts dans lequel on met jour par jour les anniversaires à fêter. Alors les anniversaires, c'est l'anniversaire de la mort en fait, hein, pas de la naissance tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc cet obituaire qui commence au XIIe siècle, là on lit très bien, donc le 7 des calendes de juillet. Donc les 7 des calendes de juillet, c'est le 25 juin. Donc c'est bien la fête de Tigre, Thècle de Maurienne. C'est pas la fête de Thècle d'Iconium. Parce que Thècle d'Iconium se fête le 24 octobre, en tout cas en Occident, en Orient je crois que c'est le 23 octobre, en tout cas c'est pas au mois de juin. Donc il s'agit bien ici de notre sainte, enfin quand je dis notre, de notre sainte locale, il s'agit de Tigre. Et pourtant ici, vous voyez, on l'appelle Thècle. Dans un obituaire un peu plus récent, même chose. On trouve toujours la Vierge Virginis, Thècle, avec quatre chants. Donc en fait, qu'en conclure? Tout simplement que dans tous les ouvrages qui sont destinés aux fidèles, ceux qui sont lus pendant les offices par exemple, on utilise uniquement le nom de Tigre, c'est le seul nom qui est connu ici dans la vallée, à cette époque. Par contre, les clercs qui sont érudits, qui lisent éventuellement les publications extérieures, ont eu vent de cette histoire de Thècle qui remplace le Tigre. Et donc ils vont adopter très vite le nom de Thècle qui offre un prestige nettement supérieur au nom de Tigre qui est que local. En conclusion, dans les ouvrages comme les obituaires qui sont à destination uniquement des clercs, du clergé, les fidèles ne vont pas lire les obituaires. Donc là on utilise Thècle. Et dans tous les ouvrages qui sont à destination on dirait aujourd'hui du grand public, on emploie le nom de Tyr. D'ailleurs, quand on va fonder la seule église dédiée à cette sainte, je vous en ai parlé, c'est celle du Bourget en Huile, on va l'appeler Sainte Tigre du Bourget. On ne va pas l'appeler Sainte Tecle, parce que localement, les gens, c'est Tigre. Alors aujourd'hui, elle s'appelle Sainte Tecle du Bourget, mais à l'époque, c'était Sainte Tigre du Bourget. Alors cette pauvre tigre, finalement, n'a qu'un statut local, mais on va quand même essayer d'en faire une sainte, entre guillemets, comme les autres, en essayant de développer son culte et de lui écrire, cette fois, une vita digne d'un saint réel. Et donc, c'est une entreprise que vont compiler, donc, très tardivement, au XVIIIe siècle, les Hollandistes. Ils vont lui écrire donc cette vita, qui alors là est très complète, c'est quasiment notre légende actuelle. On va rajouter dedans, pour en faire une sainte qui soit reconnue, on va lui rajouter un miracle. Donc elle va faire un miracle. Alors il n'est pas très prestigieux, mais il existe quand même. Alors c'est sur la montagne où se trouve sa grotte, il y a des moineaux qui la gênent dans ses prières. Et donc elle va demander à ce que les moineaux disparaissent. Et donc elle va être exaucée. Et on dit que depuis ce jour, il n'y a plus de moineaux sur la montagne du Rocher. Bon, c'est quoi, il faudrait. Voilà. Donc, bref, elle a tout l'appareillage, l'appareil d'une sainte comme les autres. Et malgré ça, elle va rester dans un statut local. Elle ne va jamais vraiment rentrer dans le martyrologe de Rome, contrairement à Thècle d'Iconium, qui y est depuis longtemps. Voilà, c'est Daniel Papenbrock, pour les Hollandistes, qui a compilé cette vita. Et donc, jusqu'à nos jours, cette légende va continuer à. Non seulement à se répandre, mais à progresser, à avoir une notoriété. Et en particulier, le point culminant, c'est le XIXe siècle, avec cette fois même le pape Pie IX qui accorde à ceux qui visitent la grotte, le jour de la fête de la Sainte, une indulgence de 7 ans et 7 quarantaines les autres jours de l'année. Donc, une indulgence plénière, là je prends encore sous contrôle d'Ivan Caporizo, c'est la rémission des péchés, mais des péchés qui ont été pardonnés par le sacrement de la confession. Voilà, c'est ça. Et donc, l'évêque de Belley, qui passe à la grotte à la même époque, va aller encore plus loin, puisqu'il va simplement dire qu'il suffit de regarder de n'importe quel lieu où on se trouve, de regarder la croix, cette croix dont je vous ai parlé, plantée par le sénateur Anselme, et il suffit de l'apercevoir et de réciter un pater et un ave maria. Voilà. La littérature s'en mêle également. Charles Buet, écrit... un ouvrage, un roman, s'appelle Le Regalage, où il reprend l'histoire de Thècle, alors très très librement adapté. Voilà, donc le 19e siècle est le moment où la légende de Thècle, Tigre Thècle, est la plus importante, et elle va survivre jusqu'à nos jours sans problème, alors que, petite revanche sur Thècle d'Iconium, c'est que Thècle d'Iconium, après Vatican II, dans le début des années 60, va disparaître du martyrologue romain, parce que Thècle d'Iconium, on s'est aperçu qu'elle venait d'un ouvrage qui s'appelait Les Actes de Saint Paul et de Thècle, et qui serait un ouvrage apocryphe, donc il n'est pas reconnu. Et donc on a supprimé Thècle d'Iconium, mais notre sainte locale existe toujours. Voilà, je termine sur une troisième partie. Ce sont quelques points qui posent question. Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, un point quand même sur lequel je tiens à insister, c'est le cas de Saint-Jean-Baptiste. Je l'ai appelé le cas Saint-Jean-Baptiste tout simplement parce que c'est un personnage, je vous l'ai dit, le troisième personnage de la chrétienté. Et il se trouve que ces reliques ont été transférées pour la première fois en Occident, en Maurienne. C'est la première fois qu'il y a des reliques de Saint-Jean-Baptiste qui viennent en Occident, et c'est pour la Maurienne. Et puis, quelque chose d'assez troublant pour obtenir des reliques... De façon unanime, tous les érudits que nous avons rencontrés considèrent que le corps de Saint-Jean-Baptiste était incinéré à l'époque de l'empereur Julien l'Apostat, et ses cendres ont été dispersées. Donc en fait, il n'y aurait théoriquement pas de cendres, pas de reste de Saint-Jean-Baptiste. Mais d'ailleurs, ça reste jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Là, vous avez un tableau du 15e siècle à Vienne, vous voyez, on représente encore l'incinération des restes de Saint-Jean-Baptiste. Donc c'est difficile de comprendre qu'il y ait des reliques. Mais c'est là que vous comprenez que tous les auteurs ont utilisé de précautions oratoires dans leurs textes. Par exemple, Grégoire de Tours parle d'un pouce miraculeux qui apparaît sur l'autel, qui n'est pas une collecte d'ossements. Jean Belette, il dit Parmi les doigts les os qui n'avaient pas pu être brûlés, on a récupéré un doigt. Voyez, donc ils sont tous obligés de prendre certaines précautions avec cette contrainte. Quoi. Et puis l'élément qu'il faut aussi souligner, c'est cette concurrence avec Turin, parce que Turin est une ville très proche qui donc vénère Saint-Jean-Baptiste depuis plus d'un siècle quand Saint-Jean-Baptiste s'installe en Maurienne. Et donc, cette concurrence elle apparaît de façon évidente également dans le texte de Grégoire de Tours, où il nous parle de cet évêque Rufus de Turin qui voudrait récupérer la relique. Et la preuve en est, c'est que quelques années plus tard, après la création de l'évêché de Maurienne, le pouvoir lombard va faire de Saint-Jean-Baptiste son patron, le patron du royaume lombard. Et également, peu de temps après, les reines lombardes et sa fille vont édifier deux églises à Monza et à Pavie, qui sont dédiées à Saint-Jean-Baptiste. De ce côté-ci des Alpes, le roi Gontran fait la même chose, avec plus tard donc, à Aoste, il va y avoir une église Saint-Jean-Baptiste, également Belay. Donc on voit très bien la figure de ce saint prestigieux de chaque côté des Alpes, et qui, en quelque sorte, est une sorte de sentinelle qui protège les deux royaumes ennemis. Ensuite, je suis obligé d'en parler, c'est la multiplicité de ces reliques en Occident, et ce n'est pas propre à Saint-Jean-Baptiste. C'est le cas de tous les saints. Chaque évêché a besoin d'avoir un nombre de reliques importantes pour son prestige. Alors le cas de l'évêché de Maurienne est un cas parmi d'autres, mais vous avez au XVIIe siècle, vous avez, en dehors des doigts de Saint-Jean-Baptiste, vous avez un bras de Saint-Tech, vous avez un bras de Saint-Gontran, puis vous avez une multitude d'autres petites reliques qui sont là. Alors je vais vous passer le détail, je vous donne juste le décompte de ce que j'ai pu moi recenser à travers le monde chrétien. Les cendres de Saint-Jean-Baptiste, vous voyez, les têtes on en trouve 20, qui sont vénérées quelque part. Les jambes on en trouve 4, les épaules 4, les bras 9, les bras complets avec les mains et les petits doigts. Les mains on en trouve 15, les mâchoires on en trouve 8, il y en a une pendant longtemps, donc à Haus d'ailleurs. Et puis ce qui nous intéresse aussi au milieu, les doigts il y en a 93. Et les doigts, il y en a, si on tient compte des occurrences multiples, comme c'est le cas à Saint-Jean-Maurice, où il y a trois doigts, le chiffre de 150 est vite atteint. Ça, c'est juste le nombre de lieux où on a trouvé, pendant le temps de la chrétienté, une vénération d'un doigt de Saint-Jean-Baptiste. Alors, vous l'avez compris, ce culte des reliques engendre un commerce, hein, évidemment, voire un trafic. Et là, je ne peux m'empêcher de vous parler d'un petit document qui a découpé Jean Prieur dans le Dauphiné Libéré en 2010, vous voyez, ça se passe en Grèce, voilà, et le trafic de reliques continue encore au XXIe siècle. Voilà, donc un mot sur le voyage en Orient, ça ne repose que sur un seul mot qui s'appelle, c'est donc ce mot sepulchrum, dans le sens où sepulchrum en latin classique, ça veut dire tombeau. Donc si on parle de tombeau de Saint-Jean-Baptiste, forcément on pense que c'est en Orient, donc il y a un voyage en Orient. Sauf qu'à l'époque de Grégoire de Tours, ce mot sepulchrum peut vouloir dire aussi autre chose. Et il désigne en particulier, dans tout hôtel consacré, un emplacement qui se trouve sous l'hôtel et qui est destiné à abriter des reliques. Donc suivant le sens qu'on donne à sepulchrum, si ce n'est pas tombeau, on n'est pas obligé de penser à un voyage en Orient, on peut imaginer un voyage beaucoup moins exotique, peut-être en Gaule ou en Italie, où la sainte, pendant plus de deux années, se crie sur cet autel, au-dessus du sépulchrum, et obtient donc une relique. Voilà, c'est une question que je pose, j'ai pas d'affirmation là-dessus. De même, la grotte de Saint-Tech, bon, il faut quand même signaler qu'elle n'apparaît que vraiment avec un culte digne de ce nom, avec un ermite qui est à l'intérieur, qui est sur place en permanente, à partir du XVIe siècle seulement. Donc on est près d'un millénaire après le récit de Grégoire de Tours. Elle apparaît, pour être juste, dans un texte, d'une façon indirecte, au XIIIe siècle. On trouve la mention, parlant de la chapelle qui se trouve aujourd'hui dans l'église de Maurienne, la chapelle Saint-Tech, on parle de l'église Saint-Tigre de la Balme. La Balme, en latin, ça signifie excavation dans un rocher, caverne. C'est ce qui a donné en provençal le mot baume. Voilà. Alors on peut penser que déjà à cette époque, au XIIIe siècle, on parle de grotte. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque où Tigre devient, de façon dichotomique, devient Tech aussi, et que l'assimilation avec la légende de Thècle d'Iconium est de plus en plus évidente, en particulier cette présence dans la grotte. D'autant plus que des femmes dans une grotte, il y en a très peu. J'ai essayé de recenser tous les ermites de la tradition chrétienne jusqu'au 9e siècle, et des femmes, il y en a très peu. J'en ai recensé que 5. Et encore, dans ces 5-là, il y en a une. On peut être certain que c'est pas une femme, parce qu'on la surnomme le nuque, donc c'est sans doute un homme. En tout cas, voilà, le statut, pour des raisons évidentes de sécurité, une femme est difficilement isolée dans la montagne. Elle est plus une recluse, c'est-à-dire isolée, mais à l'intérieur, par exemple, d'un monastère.
Tout simplement d'une excavation faite sur une place et où on enterrait vivante la personne avec juste un oculus pour permettre de lui passer à manger et à boire, et la personne mourait comme ça. Je connais le cas de Valréas en Vaucluse, où nous sommes originaires, hein, et une sœur d'un couvent du sud de la Drôme avait été enterrée vivante avec toute une procession, hein, pour lui redemander si elle était vraiment d'accord pour aller dans ce caveau. Et ceci étant. Donc c'est tout au Moyen-Âge, on retrouve ces reclus ou ces recluses à qui on a monté à manger plus ou moins, et puis crever tranquillement.
Voilà. Bien, donc, merci de votre intervention. Je sais qu'il y a des gens de Valoir ici, donc je parle quand même un petit mot de Valoir. Valoir, donc c'est ce fameux mot volakis qui apparaît dans le texte de Vienne. Alors je fais remarquer que quand même c'est qualifié de oppidum. Un oppidum, c'est une place forte. Donc ça laisse supposer des murailles. René Chemin, je ne sais pas s'il est là, il ne m'a pas signalé qu'il y avait trop des murailles à Valoir. Enfin bon, peu importe. En tout cas, on peut affirmer une chose, c'est que pendant une bonne partie du Moyen-Âge, Valoir s'appelle de cette façon-ci. Voilà. Et il survient au XIIIe siècle, encore une fois, donc à une époque où le récit de Vienne est connu, apparaît pour la première fois le mot volovium, qui effectivement ressemble à volakis. Voilà. Alors les deux appellations sont utilisées. Bon, c'est une hypothèse, mais en tout cas, de façon plus probante, je pense à autre chose. Je pense à cette. Alors ça, c'est donc une chapelle qui était la chapelle de Valoir, dédiée à Sainte-Thècle, qui était donc construite par une famille Rapin qui s'appelle la famille Rapin de Valoir, au XVIe siècle seulement, et qui va prétendre donc descendre de Sainte-Thècle. Donc il y a une sorte de récupération effectivement du culte de Sainte-Thècle à Valoir. C'est assez surprenant. En tout cas, le chanoine Gros, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, n'a pas trouvé de documents antérieurs au XVIe siècle. Donc on est à l'époque de la Réforme et pas avant. Une chose qui moi m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle la paroisse de l'évêque. Il faut savoir qu'après l'époque de la révolte des arbres, que vous connaissez très bien, 1326, le traité de Rendant, 1327, l'évêque de Maurienne perd beaucoup de son potentat sur la Maurienne, et donc il y a très peu de. Il lui reste en gros trois paroisses qui sont des paroisses de l'évêque, donc on appelle ça la terre épiscopale. Et dans ces trois paroisses, vous avez, en dehors d'Argentine et Saint-André, vous avez cette grande paroisse de Valoir, proche de l'évêché, qui est vraiment la paroisse de l'évêque. Donc une paroisse qui convient bien, qui sied bien à la notoriété de Thècle. Voilà. C'est éventuellement une hypothèse supplémentaire. La conclusion, j'y viens, donc j'ai essayé de parler vite pour essayer d'être le plus court possible, mais c'est difficile. Vous avez compris que le texte de Grégoire de Tours est un discours que je qualifierais presque de politique, puisqu'il survient exactement, ça j'ai pu montrer que la datation de ce texte est absolument concomitante avec la création de l'évêché de Maurienne. Donc ce discours est un discours qui vient appuyer les décisions du roi Gontran et qui survient au bon moment pour justement la mise en place de cette tradition. Ce qui ne veut pas dire que Saint Jean-Baptiste n'était pas honoré même avant cette époque. Et qu'il est honoré depuis plus d'un siècle à Turin. Il est probable que les clercs mauriennais qui étaient tournés vers Turin avaient été formés par Turin et donc vénéraient également Saint Jean-Baptiste avant cette époque. En tout cas, le texte de Grégoire de Tours est un document, un discours politique, on dirait peut-être aujourd'hui une campagne de communication. Voilà. Le culte de Saint Jean-Baptiste, vous l'avez compris, est attesté de façon formelle avec cet oculus qui se trouve dans la crypte de la cathédrale. On peut imaginer donc les pèlerins faisant la queue ici le jour de la fête du Saint, en ayant payé une obole et donc regardant à travers cet oculus les reliques qui sont exposées de l'autre côté. Ensuite, vous avez compris que cette lémine-là est très évolutive jusqu'à notre époque. C'est une sorte d'empilage hagiographique de différents épisodes. Vous avez compris également le nom de texte qui apparaît au XIIe siècle. Également, il faut le souligner, c'est une belle performance, c'est la pérennité de cette légende qui dure depuis 15 siècles et qui est plus vivante que jamais. En tout cas, c'est les touristes, on remplace aujourd'hui les pèlerins d'autrefois et on raconte toujours cette tradition qui a, je pense, suscité une sorte de cohésion, une sorte d'identité moriennaise à travers à la fois la tradition de la Tech, mais aussi les doigts de Saint-Jean-Baptiste, bien sûr. En tout cas, une légende qui est toujours vivante. Et je terminerai par ce tableau que je vous ai déjà présenté, donc peint par Casimir Vicario en 1832, qui, sans le faire exprès, vous voyez, réunit tout en même temps dans un même espace-temps, dans une unité de temps et d'espace, les reliques, cette tech, les veuves, l'évêque, la création des évêchés, donc le roi Gontran, l'église au fond qui est avec le clocher. Voilà, donc il le fait sans doute pour résumer l'histoire. C'est une série de tableaux qui sont aujourd'hui exposés, c'est le dernier de la série. Ils sont exposés, ils ont été restaurés en 2019, ils sont magnifiques, ils sont exposés dans l'église de Morienne, dans la nef, en hauteur, il faut lever la tête pour les voir, je vous encourage à aller les voir. Et donc ce Casimir Vicario, finalement, est assez... je suis assez d'accord avec lui, finalement. Voilà, tout arrive en même temps, en 580, une année près, et tout se passe à ce moment-là. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Y a-t-il des questions, des interventions ? Monsieur Caporizo, non ?
Vous avez vu la qualité du travail de Jean-Pierre. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, quand on rentre en master de recherche, on nous dit, si vous travaillez bien, vous aurez 12 ou 13. Vraiment très bien, vous aurez 15. Jean-Pierre a eu 17 et 18. Ça vous donne... Vous avez vu la qualité des cartes aussi. Moi, ça m'empêchait de dormir. Lui, il donnait des conseils aux profs. Alors...
Tu m'as dit 17.
Ah, 17. Bon, 2 fois 18. Non, mais il m'a agacé tout le temps. Il avait toujours eu un point de plus que moi. Voilà, non. On a collaboré. Au début, je lui ai donné quelques petits renseignements, mais rapidement, il nous a...
Je dois dire que Pierre est un support pour moi important, parce qu'il a d'abord une antériorité dans l'histoire que je n'ai pas. C'est le cas de Pierre également, ça veut dire.